matin, tout à fait, par la Providence, elle ouvre ça et puis il est question de avance en eau profonde. Alors je vous lis un petit extrait. Avance en eau profonde et jetez vos filets. Alors il dit ici, c'est Christian Beaulieu qui écrit, ce n'est pas un conseil timide que Jésus donne à Pierre, Simon-Pierre. Ce n'est même pas une simple suggestion. C'est un ordre. La parole de Dieu fait ce qu'elle dit. C'est un ordre. En avant, marche, c'est catégorique. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement devant l'ampleur de l'annonce du royaume? C'est une mobilisation générale qu'il faut, c'est un ordre. Et ça continue pendant des pages. J'en lis un autre petit bout. On sait que dans la Bible, la mer veut dire le monde du mal, des ténèbres. Alors, avance en eau profonde, pour un Hébreu, c'est dangereux. L'eau profonde, la mer, c'est là où il y a la peur, l'angoisse, l'insécurité, la solitude, les risques, les imprévus, les intempéries, les imprévoyances. Mais avec Jésus, on peut y aller. Et il me revient quelque chose qu'un psychologue québécois a écrit concernant ce monde intérieur. Il dit, nous sommes faits comme une maison. Il dit, au premier, c'est le rez-de-chaussée. Et la plupart de nous, nous vivons au rez-de-chaussée. Parce que il fait beau, le beau temps, il va faire mauvais, au rez-de-chaussée. Et puis, nous avons un premier sous-sol. Et le premier sous-sol, on commence à y voir des peurs, des inquiétudes, des imprévus. Alors, c'est dangereux, on remonte au rez-de-chaussée. Et pour aller en mer profonde, pour aller au cœur profond, il faut traverser le premier sous-sol pour se rendre au deuxième sous-sol, où Jésus est là, Dieu nous attend, la Trinité, bienheureuse, miséricordieuse. J'ai trouvé ça beau comme image. Alors, retenez que depuis que nous avons commencé la retraite, nous essayons de descendre au deuxième sous-sol. Alors, on va chanter pour nous préparer pour cet après-midi. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain.
Habiter nos vies. de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle.
Bonjour. Je suis un peu mal à l'aise, c'est comme si j'avais coupé la parole à Sœur Françoise. Peut-être qu'on ne s'était pas compris, ça. Alors, mais j'en profite pour... j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qu'on a rencontrées pour la première fois qui sont ici cet après-midi, et vous souhaite la bienvenue. Et je me permets de vous dire ce que j'ai toujours dit aux gens qui arrivent à Foi et Partage. Foi et Partage un jour, Foi et Partage toujours. Vous faites partie du groupe maintenant, vous êtes partie de la gang. Alors, dans quelques minutes, Françoise nous donnera la parole. Après, il y aura la pause. Et entre la pause et les équipes, il y aura toujours la présence réelle sera là et il y aura le temps d'adoration. Dans les équipes, il y a plusieurs personnes qui sont ici pour la première fois. Alors, quand vous nous verrez se disposer, s'en aller dans les équipes, venez vous asseoir en avant pour qu'on vous distribue dans une ou l'autre des équipes. Vous serez les bienvenus dans les équipes. Quelqu'un est venu me dire il y a une minute, je trouve ça un peu embêtant de vous parler de ça là. Il paraît que quand on prend la collation l'après-midi, on mange beaucoup de noix et de pinottes, puis il y en a qui tombent par terre. Puis hier, on a dit qu'il y avait des écureuils qui venaient manger les pinottes. Et puis on a peur que les écureuils rentrent dans l'église, fait qu'on m'a dit d'essayer d'être prudent pour pas souhaiter la bienvenue aux écureuils. Maintenant, je voulais vous dire aussi que vous avez dû voir qu'en arrière, on vous offrait les cassettes, si vous voulez. Et si vous avez le site Internet, vous pouvez aussi, en regardant l'adresse sur le dépliant ici, www.foipartage.org, vous aurez aussi le compte-rendu de tous les entretiens que vous avez entendus pendant ces jours-ci. Et ceux qui n'y étaient pas, ben ça serait une façon de vous rejoindre à la retraite. Alors, après ça, ben, il y aura le souper au Centre Monseigneur Bouffard. Et ce soir, c'est Marc qui nous donnera la parole. Et la parole sera suivie de la messe, où on fera... soyez sûrs d'avoir vos macarons comme il faut ce soir, parce qu'on fera des échanges de macarons pour prier les uns pour les autres. Alors, s'il y a des choses que je ne vous ai pas dites, on se le dira plus tard. Et je cède la parole avec grand plaisir à Françoise.
Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle.
Alors, nous sommes toujours au cœur de la Trinité bienheureuse, au cœur de la Trinité miséricordieuse, pour rester là. C'est notre place, c'est une place choisie, soyez, et nous sommes soyez de continuer à creuser la parole. Assez curieusement, j'avais préparé autre chose pour cet après-midi, et puis le texte que Jacqueline va lire s'est imposé à moi. Alors, je me suis dit sûrement que j'ai quelque chose à apprendre dans ce texte. Et en le creusant, oui, j'ai vu que ça continuait bien ce qu'on a commencé hier. Alors, on va essayer d'aller plus loin dans notre descente intérieure avec Jésus et voir qu'est-ce qui m'habite à ce moment-ci. Et Jacqueline, si tu as la bonté de venir proclamer cette parole, nous allons nous lever, s'il vous plaît.
Hérode se disait, « Je suis bien sûr... » Excusez. À leur retour, les apôtres racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira dans les environs d'une ville appelée Bethsaïde, de façon à être tranquille. Mais les foules le surent et ils arrivèrent derrière lui. Il les reçut et continua de leur parler du royaume de Dieu, tout en rendant la santé à ceux qui étaient malades. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule pour qu'ils aient se chercher un toit et de la nourriture dans les villages et les campagnes des environs, car ici nous sommes loin de tout. » Il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Tu nous vois sans doute y aller nous-mêmes et acheter de quoi manger pour tout ce monde. » Car il y avait bien là 5 000 personnes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Les disciples firent ainsi, et tout le monde s'installa. Alors, Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève le regard vers le ciel. Il prononce la bénédiction. Il rompt le pain et commence à en donner aux disciples pour qu'ils servent la foule. Ils mangèrent. Et tous eurent à leur faim. Après quoi, on ramassa les restes. Il y en avait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu.
Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle.
En regardant le texte, m'est arrivé un souvenir très beau, une expérience vécue à Combermere, que plusieurs connaissent ici, cette communauté de la baronne de Hueck, Madonna Haas. Alors j'étais avec une de mes compagnes, Blandine, pour 1 mois dans la communauté. Puis nous trouvions cette expérience extraordinaire, parce qu'une communauté nouvelle, il y a un souffle qui nous prend et qui nous transporte un peu. Et puis, la cuisinière nous a partagé quelque chose qui venait d'arriver, en lien avec la lecture qu'on vient d'entendre. C'est toujours assez nombreux. Nous étions près de 120 la semaine où nous avons vécu là. Et puis, elle dit, « Je venais de terminer de servir. Les plats étaient à peu près vides. » Puis voilà qu'il arrive un autobus de 50 personnes. Alors, elle dit, « Je suis affolée, on n'a pas ce qu'il faut. » Elle s'en va trouver Catherine, la fondatrice, elle lui dit, « Qu'est-ce qu'on fait? » Et Catherine, avec le plus grand calme possible, lui dit, « Servez-les. » Je ne sais pas si vous avez la chair de poule. Moi, je l'ai, là. Servez-les. Elle est partie dans la cuisine. Et elle a commencé à servir, avec ce qui restait, ces personnes. Ils étaient 50. Elle ne se rend pas compte de ce qui se passe pendant qu'elle fait le service. Les 50 personnes sont servies. et à sa grande stupeur, elle constate qu'il en reste encore dans les chaudrons. Donc, la multiplication des pains est parfois actuelle. Elle est partie sur la parole de quelqu'un qui avait la foi. Servez-les. Bien, Jésus, c'est ce qu'il va faire ici, aujourd'hui, et on va essayer de voir comment il fait ça. Ça fait au moins 40 ans que cet évangile-là a été écrit. Hein? Jésus est décédé, mort, enterré, ressuscité, puis les apôtres commencent à écrire petit à petit, mais ça prend au moins une quarantaine d'années avant qu'on écrive quelque chose. Ce qui surprend, c'est que le texte de la multiplication des pains est écrit, et on en parle pendant 6 fois. 4 fois dans chaque évangéliste et 2 fois dans Luc et Jean. Matthieu et Marc, pardon. Cela nous montre l'importance de l'événement. L'importance de l'événement pour les premières communautés chrétiennes. Mais ça nous montre aussi quelque chose d'important pour notre communauté, pour nos communautés actuelles. On peut dire sans se tromper que cet épisode représente un aspect important de l'enseignement de Jésus, peut-être même le cœur de l'enseignement de Jésus, le cœur de notre foi chrétienne. À Cana, ça a été un miracle de transformation. Ici, c'est un miracle de multiplication. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, il faut revenir un petit peu en arrière dans le texte. Il est dit que Jésus a transmis son autorité à ses apôtres. Il les envoie en mission. Le premier aspect qu'il faut retenir, il les envoie 2 par 2. Quand on part en mission, on ne part pas seul. On part avec une communauté, une équipe, des soutiens fraternels. Il les envoie 2 par 2, puis il leur dit, « En mon nom, retenez cela, en mon nom, chassez les démons, guérissez les malades, annoncez le royaume de Dieu. » Puis quelques petites consignes. Ne prenez rien pour la route, ni pain, ni argent. Demeurez là où on vous accueille, et le reste, et le reste. Et là, les apôtres, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés en mission, puis là, ils reviennent, puis ils ont bien hâte de partager avec Jésus ce qui est arrivé. Tout à fait normal. Ils ont besoin de partager avec leur ami Jésus, leur maître, des aventures heureuses, difficiles, comblantes. Et comme un bon papa, Jésus les écoute, il se réjouit. Puis, il les amène à se retirer dans un endroit un peu désert pour se reposer. Le hic, c'est que la foule les a vus. Alors, ils courent après eux et ils arrivent là, derrière eux. Jésus continue d'enseigner. Il continue de leur parler du royaume à cette foule qui vient d'arriver. Il guérit même des malades. C'est ce qu'on vient de lire. Mais, il y a un mais. Les apôtres sont venus là pour se reposer. Que c'est ça, cette histoire-là? Le jour baisse, c'est bientôt la nuit. Ils sont loin de tout. Ils n'ont rien dans leur poche, puis les gens non plus. Alors, il faut les renvoyer. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il faut les renvoyer pour qu'ils trouvent un toit, de quoi manger avant la nuit. Mais c'est pas eux qui le font, ça. Ils demandent à Jésus de le faire. Renvoie-les. Non seulement on demande à Jésus d'arrêter de parler du royaume, mais en plus on demande à Jésus de les renvoyer. Sans nourriture, à une heure tardive. Alors, c'est un petit peu compliqué. D'un côté, ces gens-là dérangent. C'est pas dans notre programme, là. Ça arrive pas au bon moment. C'est pas ce qu'on avait prévu. C'est en dehors tout à fait de ce qu'on avait projeté. Alors, le bon sens nous dit, renvoie-les. Bon, on est probablement d'accord avec eux. Plus ou moins, hein? Puis de l'autre côté, bien, il y a l'isolement, il y a le manque de ressources, c'est bientôt la nuit. On est devant l'impuissance totale. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous trouver dans des situations impossibles où on ne voit pas la lumière au bout du tunnel? Il y a deux alternatives. On peut baisser les bras puis dire « Ça ne nous regarde pas » ou bien « Je ne peux rien faire, donc on ne fait rien. » Ou, c'est peut-être le moment d'une issue quelconque, de grandir dans la foi, dans l'ouverture. Alors, les apôtres sont plutôt enclins à baisser les bras. Et d'oublier l'essentiel. La situation est impossible, mais Jésus est avec eux. Alors, Jésus est avec eux. Donc, tout est possible. Tout devrait être possible. Mais pour le moment, les apôtres, comme nous-mêmes, très souvent, comme moi, je ne vois rien. Je ne vois pas de solution. Ils ont oublié déjà la parole de Jésus. « Ne vous préoccupez pas de ce que vous allez boire ou manger. Cherchez d'abord le royaume. » Ils ont tout entendu ça. Mais la parole n'est pas descendue au deuxième sous-sol. La parole est restée au premier sous-sol. La peur, l'incapacité, l'impuissance, l'angoisse. Ils n'ont pas encore expérimenté qu'est-ce que c'est que la foi. Il va leur falloir vivre quelque chose, comme à nous-mêmes, pour leur donner d'aller plus loin, de faire un pas de plus, d'avancer en eau profonde. La foi, c'est une vertu théologale, c'est un don de Dieu. Mais ce n'est pas un but. La foi, c'est un chemin. Que je mette un pied devant l'autre pour avancer dans la foi. C'est un chemin qu'il faut prendre, mais avec Jésus. Et Jésus va leur permettre de vivre cette expérience. Par leur incapacité à faire confiance à Jésus, ils bloquent son action. Ils bloquent sa mission, qui est d'enseigner, de nourrir, de guérir. Que de foi, peut-être, l'action de Jésus a été bloquée par mon manque de foi. Ça m'a rappelé quand Mgr Ebacher a été sacré évêque à Hauterive en 1974-1975. La cathédrale était bondée. La première parole qu'il a dite, que je n'ai jamais oubliée, que je me répète souvent, il a dit « Dis ta foi, elle grandira. » Ça a résonné dans la cathédrale. « Dis ta foi, elle grandira. »
Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain. pain de la vie éternelle.
Donne-nous,
Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle.
Est-ce que vous me suivez bien? Parce qu'on va arriver au plus creux, là. Toute situation impossible, c'est le temps de Dieu. Ce qui est possible, il me laisse faire. Il m'a donné des dons, des aptitudes, des qualités, des connaissances. Il nous laisse. Mais ce qui est impossible est son domaine. Et même pour Jésus, il a eu parfois à changer d'idée, à changer d'orientation, à se laisser conduire par le Père. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est qu'on nous dit qu'il a besoin de nous pour réaliser ce qu'il veut faire. Donnez-leur vous-même à manger. Déjà là, il y a quelque chose qui se passe. Les apôtres disaient, renvoie-les. Puis Jésus dit, donnez-leur à manger. Vous voyez les deux mondes? Ben alors, les apôtres, écoute, Jésus, mais t'es fou. Mais voyons, il y a 5000 personnes ici au moins. Puis on a peut-être, avec le petit garçon, là, 5 pains de poisson, ben tu vois bien que ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est que 5 pains de poisson pour nourrir une foule? Jésus nous surprendra toujours. Jésus nous surprendra toujours. Il répond rarement dans le sens où nous le souhaitons. Les disciples sont fatigués, ils ont besoin de repos, ils aimeraient bien garder Jésus pour eux tout seul. En un mot, avoir la paix. Hein? Puis ça serait bien normal. Petite soirée tranquille. En compagnie de Jésus, cette foule vraiment les embarrasse. Eh bien, nous, quand l'obstacle nous barre la route, la tentation de fuir nous guette immédiatement. Première réaction, c'est que on laisse tomber, ça ne nous regarde pas, on fuit. Comme je disais hier, un événement peut être un tombeau. Ou un tremplin. Mais pour Jésus, ce moment est très précieux pour lui. Parce qu'il est toujours branché sur sa mission. Il ne perd pas de vue pourquoi il est là. Je le répète. Parce que Jésus est toujours branché sur sa mission. Grande D qu'on dirait aujourd'hui. Il ne perd pas de vue pourquoi il est là. Il voit cette foule. Il compatit. Ses entrailles s'émeuvent. Il voit des brebis errantes, sans berger. Des gens peut-être qui ont perdu espérance. Est-ce que je sais, moi, pourquoi je suis là? Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je sais où je m'en vais? Je suis peut-être cette brebis errante, J'ai peut-être perdu espérance aussi. Et c'est une autre parole de Jésus qui va permettre aux apôtres de réagir. Jésus dit, faites-les s'asseoir. Comprenez-vous? Ils arrivent de loin, ils ont marché, ils sont fatigués. Commencez par les faire s'asseoir. Puis pas n'importe comment. Par petits groupes de 50. C'est-à-dire à taille humaine. Il faut commencer par le commencement. Accueillir ces gens, les faire asseoir. Après, on verra. Mais on voit bien que ces gens ont faim de pain matériel, mais aussi de faim spirituelle. Ils ont faim d'être reconnus. Ils ont faim d'attention, d'écoute, de tendresse. Mais savez-vous quoi? Le premier miracle, c'est que les disciples se sont mis au travail. Et malgré leur fatigue et leur déception, ils ont réussi à regrouper 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, à regrouper ces gens en équipe, à leur donner un milieu comme plus humain, l'accueil. Et ce matin, dans notre équipe, on a justement parlé de l'importance de l'accueil. C'est le premier pas dans l'évangélisation, dans n'importe quoi, l'accueil. Ça faisait à peine quelques semaines que notre maison était ouverte à Amqui, que pendant un repas, la porte sonne et puis arrive un monsieur et dit, je ne sais pas ce qui se passe, là, moi, là. Il dit, j'allais me jeter dans la rivière. Je dis, quand je suis passée devant la maison, il dit, les pieds m'ont croché, puis je suis rentrée ici. Ben, cher monsieur, on est en train de souper. Venez prendre une bonne soupe, un bon café. On va échanger, on va jaser. Et c'est ce qu'on a fait. Puis pendant le souper, ben, il a raconté. Alors, il avait perdu son travail, sa femme était partie, les enfants lui en voulaient, et puis le reste. Donc, c'était noir, noir, noir. Je n'ai plus qu'une chose à faire, disparaître. On a pris le temps d'écouter, faire un moment de prière avec lui, et on lui a fait promettre de revenir le lendemain. C'est ce qu'il a fait. On l'a revu à quelques reprises. Il a repris goût à la vie. Il est de nouveau avec une petite famille, un travail. Je le vois régulièrement à Amqui. Et je me dis, qu'est-ce qu'on a fait au juste? Pas grand-chose. On l'a simplement accueilli. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Alors, en lisant ce passage de la multiplication des pains, c'est comme si je le lisais pour la première fois. Vraiment, pour la première fois. Et même, j'ai été très émue. Parce que j'ai vu que Jésus lui-même nous invite à son banquet. Jésus lui-même nous invite à son banquet. Je reconnaissais là la dernière scène, les disciples d'Emmaüs. Et puis les paroles qui nous touchent, il prend les pains, les poissons, lève les yeux au ciel, prononce la bénédiction, rompt le pain, et commence à en donner aux disciples pour qu'ils servent la foule. C'est un moment extraordinaire pour Jésus et un moment extraordinaire pour ses apôtres et pour nous. En ce moment, Jésus dit, « Je donne ma vie pour vous, prenez et mangez. » Ce geste de Jésus a changé la face du monde. Et ça s'actualise à chaque moment où un geste d'amour est posé, à chaque Eucharistie. Ce geste de Jésus, il y a 2000 ans, s'actualise en ce moment dans foi et partage, quand nous rompons le pain pour l'accueil, pour le partage, quand nous devenons nous-mêmes pain rompu pour la fin du monde, quand nous osons nous laver les pieds les uns les autres, comme hier. À chaque fois que la vie circule, que l'amour circule, Dieu est là. En préparation du projet, je vous en parle parce que c'est ma vie, en préparation du projet, ça fait une dizaine d'années que nous sommes avec la Maison d'Angèle, on demandait aux gens, il y avait beaucoup de laïcs avec nous, qu'est-ce qui va caractériser cette maison particulièrement? Puis là, il y avait toutes sortes de suggestions. Puis tout à coup, quelqu'un a dit, un lieu où l'amour circule. Tout était dit. Un lieu où l'amour circule. Dans foi et partage, l'amour circule. Dans nos familles, c'est ce que nous désirons le plus, que l'amour circule. Mais à chaque fois, c'est Jésus qui rompt le pain et qui dit « Prenez et mangez ». Et le texte dit « Ils mangèrent et furent rassasiés ». On connaît ça, être rassasié après un bon repas, un bon vin ou une bonne bière, je ne sais pas. Rassasié, ça comble, on est comblé. C'est qu'il n'y a pas seulement le pain physique, matériel. Il y a le pain du partage, de l'amitié, de la fraternité. Et ces gens-là, cette foule anonyme, viennent de vivre quelque chose de nouveau. Et ils peuvent repartir, même proche de la nuit, mais cette fois dans l'espérance. Quelqu'un s'est intéressé à eux, ils ont le goût de le partager avec d'autres. Ils se remettent en route. Ça ressemble aux disciples d'Emmaüs. Et ça nous ressemble quand la rencontre nous a complètement refait, reconstruit, nourri. Jésus n'aurait pas pu rejoindre cette foule sans ses disciples. Il a besoin de nous pour continuer sa route. Nous, serviteurs inutiles, nous dit Jésus, ben oui, serviteurs inutiles, dans le sens que tout vient de lui. Il nous donne tout et on remet tout. Marie de l'Incarnation nous dit quelque part dans ses lettres, si j'étais quelque chose, Dieu, tu ne pourrais pas être le tout. Je suis tellement heureuse d'être rien parce que tu es le tout et que tu es mon tout. Alors, chacun, chacune de nous, nous sommes appelés à partager le pain de la table, le pain de la tendresse, de l'écoute, le pain du pardon, le pain de l'offrande, quand nous voyons nos frères et nos sœurs en fauteuil roulant, le pain de l'offrande. Pour moi, je peux aussi bien prier devant Maria, Louise, Lise, toutes ces personnes qui, apparemment, pour la société, semblent inutiles, alors que ce sont des trésors pour nous. Alors, partagez le pain de la compassion, le pain de la tendresse. Nous devenons pain rompu pour le royaume. Qu'est-ce que Jésus veut me dire par ce texte? Qu'est-ce qu'il me dit en ce moment? Quel pain Jésus m'invite à partager? Quel pas m'invite-t-il à faire pour avancer dans l'eau profonde, en eau profonde? Peut-être qu'on a besoin de ce temps d'adoration pour écouter Jésus nous parler au cœur. Et le petit refrain de Foi et partage du début me vient. Je t'invite à ouvrir ton cœur lentement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant de vie, mon ceux qui l'entendent pour la première fois, on le reprend. Je t'invite à ouvrir ton cœur lentement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant de vie. Mon